enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Lisons ensemble Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans sa main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Jusque-là, les mains de Moïse étant fatiguées. Voilà un moment critique de l'épreuve qui arrive. Un moment critique où la bataille se jouait. Même Moïse, le grand Moïse, avait un moment où il était prêt à céder sous la pression. Et puis, il y avait Abraham, il y avait et d'autres hommes de Dieu qui, les uns comme les autres, ont vécu des moments difficiles et qui, dans les moments difficiles, ont connu des moments critiques. Et j'aimerais qu'on va voir avec vous quelques 4 ou 5 points qui nous permettront de réagir comme eux et de remporter la victoire comme l'a fait Moïse et Josué. Premier point peut-être, c'est s'assurer qu'on est dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, Moïse avait une assurance face à Amalek. À aucun moment il ne tremble de peur. À aucun moment il ne vacille. Pour la bonne et simple raison que Moïse savait que Dieu voulait amener le peuple de Dieu en Canaan. Moïse était certain, dans Exode 3, 16, lorsque Moïse dit, mais qu'est-ce que je veux dire à Israël, ton peuple? Dieu lui dit la chose suivante, dis à Israël et à leurs anciens que j'ai décidé de vous arracher à ce pays, on ne vous maltraite, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, pays qui regorge de lait et de miel. Moïse avait entendu Dieu lui parler. Et en se mettant en route dans ce sens-là, il savait qu'il avait Dieu comme arrière-garde. Il savait que Dieu serait derrière lui dans ses décisions. Et si nous voulons remporter des combats, et si nous voulons remporter des victoires dans nos épreuves, assurons-nous que là où nous engageons nos vies, les directions que nous prenons pour nos vies soient des directions qui viennent de la part de Dieu. Dieu ne s'est jamais engagé à couvrir vos propres voies. Oui, Dieu se plaît à sauver et à nous sauver, et à nous sauver encore de nos erreurs et de nos bêtises, comme il l'a fait pour Abraham, quand à un moment donné, il va déclarer que sa femme était sa sœur pour essayer de sauver sa peau. Il avait menti. Mais cependant, assurez-vous, lorsque vous avancez dans votre vie, que vous êtes dans les voies de Dieu. Trop souvent, on s'engage d'abord et on demande ensuite conseil à Dieu. Faites l'inverse. Moïse savait que Dieu serait derrière lui parce qu'il avait engagé sa vie dans les voies que Dieu voulait. Et puis il avait vu les 10 fléaux d'Égypte. Et puis il avait vu aussi comment Dieu lui-même avait arraché les roues des moyeux des chars des Égyptiens. Et puis il avait vu aussi la mer Rouge s'ouvrir devant eux. Et il avait vu aussi tout récemment comment il avait changé l'eau salée aux eaux de Meriba en eau douce. Il avait vu tout ça et c'est la raison pour laquelle Moïse est monté sans crainte au combat. Lui sur le sommet de la montagne et l'armée d'Israël en bas sur le terrain. Assurez-vous que vous êtes dans les voies de Dieu. Moïse avait entendu Dieu lui parler. Et sa foi qui l'animait dans ce combat-là venait ou provenait du fait qu'il avait entendu Dieu lui parler. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a un nom et un visage, et elle s'appelle Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Bien-aimés, le privilège que nous avons en tant que croyants du Nouveau Testament, c'est que nous pouvons tous entendre la voix de Dieu nous parler. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il n'est pas dit seulement « Mes pasteurs ou mes bergers entendent ma voix ». Il est dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et cette voix-là de Dieu, cette capacité d'écoute, au début elle est confuse. Au début elle est comme celle d'un enfant, il apprend à distinguer des sons. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, ses sons s'affinent, cette capacité à discerner les sons s'affine. Et à la fin, il est capable de parler avec des sons compliqués. Et il distingue les choses. Il est capable, au sein d'un orchestre philharmonique, d'entendre les différents instruments qui jouent ensemble. Il les entend jouer ensemble, et en même temps, distinctement, il entend les uns comme les autres. Parce qu'il affine sa capacité auditive. Et j'aimerais vous inviter, frères et sœurs en Christ, à affiner votre capacité auditive. Parce que des fois, le récepteur, il est mal calé. Il est calé sur la mauvaise fréquence. Ainsi en va-t-il de nos fréquences du cœur. Des fois, on est branché sur autre chose que sur ce que Dieu veut nous dire. Dieu parle toujours et toujours encore. Parce qu'il nous aime, Dieu nous parle. Mais des fois, on est mal branché. Ou bien, il y a des brouillages. Et un des brouillages terribles, c'est le péché lui-même. Mais si nous voulons remporter les combats comme Moïse l'a fait, bien aimé, il nous faut nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et comment je le sais? En étant devenu capable d'entendre ce qu'il a à me dire. Et je deviens responsable de ma vie, de mes choix, de mes décisions devant Dieu. Premier point pour que nous puissions entrer dans cette victoire et ne pas céder sous la pression, c'est d'être sûr qu'on a engagé nos vies dans la bonne voie. Voyez-vous, Moïse n'a pas baissé les bras parce qu'à un moment donné, il savait que Dieu serait derrière. Et quel que soit l'obstacle qui est devant lui, il va le remporter la victoire. Face à la mer Rouge, tout le monde était contre lui. Le peuple a dit, Moïse, tu nous as amenés jusqu'ici pour qu'on meure devant un lac, devant une mer. Mais Moïse savait que Dieu serait capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Qui aurait imaginé un instant, bien-aimé, que Dieu soit capable d'ouvrir une mer? Je suis sûr que Pharaon s'est dit, maintenant on les tient. Mais Dieu a renversé la situation. Deuxième point, Moïse n'a pas baissé les bras, ni comme Josué d'ailleurs, parce qu'ils avaient développé un regard différent sur les situations. Voyez-vous, quelque temps plus tard, ils vont rentrer dans Canaan, et avant d'y entrer, Moïse va envoyer des espions. Les 12 vont revenir. 10 vont dire, c'est un pays super, au coule le lait et le miel. Pour preuve, ils avaient ramené une grappe de la taille d'un homme. Ils l'ont portée avec une perche à deux. Et puis, 10 ont dit, c'est super, mais il y a des géants, il y a des difficultés monumentales. Jéricho, c'est une ville avec des murailles imprenables. On ne va jamais y arriver. Et si vous saviez, à leurs yeux à eux, à ce pays-là, à ces gens de ce pays-là, on est comme des sauterelles. Ils vont nous passer dessus. Et puis deux se sont levés, Caleb et Josué, et ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, où oui, c'est vrai, on aura des difficultés, mais cependant, Dieu est avec nous et il nous donnera la victoire. Et Moïse avait la même mentalité, une mentalité de vainqueur. Il avait développé un regard différent sur la situation. Oui, il y avait maintenant une difficulté nouvelle, Amalek est venu par derrière, mais Moïse avait développé un autre regard. Israël devant Goliath a dit, oh là là, il est trop gros pour qu'on puisse le prendre. Et David, lui, il a dit, il est tellement gros qu'il est impossible à rater. Mais des fois, on ressemble à Israël. On tremble de peur devant ces géants. Oui, nous aurons des fois des géants à abattre. Face à des défis impossibles, certains ont réagi par incrédulité. Le peuple a suivi les 10 espions et Dieu a dit, alors allez-y, retournez dans le désert. Seuls deux ont dit, mais on va y arriver. Caleb et Josué, et ces deux-là sont rentrés dans Canaan. Ils l'ont pris parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras. Premier point, assure-toi d'entendre la voix de Dieu et obéis à cette voix-là. N'en fais pas à ta tête, s'il te plaît, obéis, parce que la voix de Dieu, elle est sûre. Deuxièmement, développe un regard différent sur les situations. Ose voir les défis, non pas comme des choses impossibles à surmonter, mais comme des opportunités à voir Dieu agir. Amen. Troisièmement, point extrêmement important. Au verset 13, il est dit, pardon, verset 12 encore, il est dit que Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Voyez-vous, souvent on pense à Moïse comme une espèce de figure centrale, le premier rôle d'un grand film hollywoodien. Moïse, les 10 commandements, on l'a tous vu, n'est-ce pas? On l'a vu Charlton Heston recevoir les tables de la loi, et on est tous admiratifs devant ce grand Moïse. Mais voyez-vous, ce grand Moïse, s'il avait été tout seul dans ce cas de figure-là, aurait essuyé une cinglante défaite. Il avait à côté de lui le second rôle, des Aaron et des Hur, qui ont été pour lui des soutiens au moment qu'il fallait. Et c'est grâce à ces seconds rôles-là que Moïse a remporté la victoire. Une vieille sagesse biblique dit la chose suivante. Deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un a froid, l'autre le réchauffe par sa compagnie, par son courage, par ses paroles encourageantes. Mais il est marqué aussi, malheur à celui qui est seul. J'aimerais te dire, frère, sœur, très ouvertement, face aux défis de ta vie personnelle, face aux défis de l'Église, il est bon de ne pas demeurer seul dans sa vie chrétienne, de ne pas mener une vie chrétienne en solitaire. Mais en solitaire, tu cours un danger, c'est que tu seras isolé et le diable pourra beaucoup mieux t'avaler. Moïse n'est pas resté seul. Il s'est entouré d'amis fidèles, des Aaron et des Hur, des Josué et ses chefs de guerre. Et Moïse a gagné la bataille parce qu'il s'était entouré d'amis. J'aimerais te dire, mon ami, la troisième raison pour laquelle on ne baissera pas les bras, c'est parce qu'on n'est pas seul. David avait ses généraux, Moïse ses amis et Jésus ses disciples. Et c'est une des raisons pour lesquelles il les envoie à deux. Il leur dit, allez-y, partez à deux, que si l'un tombe, l'autre le relève. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi mis en place les cellules. Et je voudrais mettre l'emphase un instant sur les cellules. La raison pour laquelle nous croyons que le travail de cellules est un travail de fond, un travail bénéfique pour l'Église, c'est que justement, ce genre de texte nous inspire profondément. Seule chacune de nos vies est en danger, mais ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Sortez une braise d'un brasier, mettez-la de côté. Au bout d'un moment, malgré toute la chaleur qu'elle a encore, elle va s'éteindre. Mais remettez-la dans le brasier, elle va se réchauffer dans le brasier et elle va recommencer à rayonner de la chaleur. Amen. Il en va de même de nos propres vies. Et c'est pourquoi je peux que vous encourager à rejoindre les cellules dans les temps qui viennent. Si vous ne savez pas trop où les trouver, allez voir Bertrand, il saura vous dire où, comment, quoi, quand, etc. Et puis derrière, sur les panneaux d'affichage, il y a des nouvelles cellules qui sont affichées, rejoignez-les. Ne restez pas seuls, ne menez pas une vie chrétienne solitaire. Vous courez le danger qu'au moment où vous fléchissez les bras, vous les baissiez complètement parce que vous n'avez personne autour de vous pour vous aider à les tenir en l'air. Faites-vous des amis sérieux dans l'Église. Cultivez les amitiés. Et je dis bien cultiver les amitiés. Et une amitié ou des amitiés, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça coûte un prix. S'il y a une chose que vous ne pourrez jamais aller acheter au supermarché, c'est des amis. Vous pouvez aller faire une soirée avec des gens, mais vous ne ferez pas des amis en une nuit. Les amitiés, ça se construit. C'est une volonté de base qu'il faut avoir et ça se fait sur le long terme. Et ça passe des crises des fois, ça passe des coups de gueule des fois, ça passe des moments difficiles, mais ces choses-là soudent les amis et les amènent à aller plus loin. Amen. Si je vous prêche ce soir l'évangile, c'est parce qu'autour de moi j'ai des gens qui m'aiment et qui dans les moments de crise sont avérés être des intercesseurs fidèles qui m'ont tenu la tête hors de l'eau. Et je suis ravi de travailler dans une église où nous sommes une équipe pastorale, où je ne suis pas tout seul à la tête, mais où j'ai à côté de moi des frères qui sont plus que des frères, qui sont des amis. Et quand je vais mal, j'ai autour de moi une équipe d'amis qui me tient la tête hors de l'eau et qui me dit « Claude, allez, relève la tête, on est avec toi, on est derrière toi, on prie pour toi. » Et ils m'ont déjà encouragé à des moments où j'aurais pu criser et me casser la figure. Faites-vous des amis dans l'église. « Ah, je ne trouve jamais en l'église. » J'aimerais vous dire, c'est un faux problème. Les amis, ça se trouve et ça se construit. Quatrième point, développe une mentalité de vainqueur, de combattant. Bien-aimé, Moïse a rendu grâce à la fin à Dieu en bâtissant un autel. Et lui, il appelle l'autel « L'Éternel ma bannière ». Autrement dit, il savait que Canaan ne serait pas conquis comme ça, par une petite bataille de rien du tout. Il savait qu'il allait y avoir des batailles et il avait appris ici, face à Amalek, que Dieu serait avec lui comme une bannière de victoire. Et la raison pour laquelle il avait levé le bâton de Dieu en l'air était lorsque les gens, les hommes en bas de guerre, les troupes de choc étaient là en train de batailler, lorsqu'ils voyaient ce bâton en l'air, ils savaient que Dieu était avec eux. Et ça donnait une force surnaturelle à ces hommes de guerre pour aller remporter la victoire. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, développe une mentalité de vainqueur. Le Seigneur que nous servons, dans Apocalypse, il est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et assis sur un cheval de l'Apocalypse, il est dit de lui qu'il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Jésus est sorti en tant que vainqueur et pour vaincre. Le but de Dieu n'est pas de perdre. Le but de Dieu, c'est de vaincre. Oui, des fois, ça a l'apparence d'une défaite. Oui, la croix a l'air d'une défaite aux yeux de l'homme. Mais à la croix, Jésus a vaincu la plus grande des batailles, celle sur le péché de l'humanité. Et il a réglé une fois pour toutes le contentieux qu'il y avait entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, et il l'a vaincu à la croix, en étant humilié à la croix. Développer une mentalité de vainqueur. L'apôtre Paul, dans Romains, va dire, Romains, bientôt je serai en Espagne et je prêcherai là-bas l'évangile. Paul n'a jamais atteint l'Espagne. Paul a atteint au mieux Rome, où il est mort. Mais dans les geôles de Rome, dans les prisons de Rome, Paul va continuer le combat. Et c'est là qu'il va rédiger les plus belles lettres. À un moment donné, il va dire à un de ses disciples, « Ramène-moi les archives, ramène-moi les textes, ramène-moi les rouleaux. » Et il va continuer à produire, il va continuer à écrire, continuer à se battre. Et il pourra dire, dans une des dernières lettres de Timothée 4, il va dire, « J'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. » Quand il n'avait plus qu'une plume et un parchemin, même avec ça, il s'est battu. Amen. Développer une mentalité de vainqueur. C'est ce que Dieu dit à Josué aussi. Sois fort et courageux. Il te suffira d'être fort et courageux et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Bien-aimé, il fut un temps quand j'étais jeune chrétien, j'entendais les pasteurs prêcher, je me disais, mais c'est fantastique. Il suffit de prier et puis Dieu le fait. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que des fois, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et des fois, la bataille est longue. Et des fois, c'est difficile. Et des fois, la bataille se joue là-dedans, là, dans la tête. Saviez-vous que Dieu veut vous rendre fort là-dedans? On parle de la force physique des footballeurs ou des athlètes. On parle aussi de la force mentale. Parlez-en à Christian, qui était cycliste, coureur, sportif. Des fois, tout le corps fait mal. Mais on sait qu'on a la capacité d'aller jusqu'au bout. Et c'est là, à ce moment-là, que le relais se passe là-dedans. C'est là que je joue la bataille. Est-ce que je vais céder à la pression du corps qui est mal ou est-ce que je vais continuer jusqu'au bout? Et bien aimé, des fois, quand la bataille devient rude, quand les mains de Moïse étaient fatiguées, il a fallu qu'à un moment donné, la bataille prenne son relais là-dedans. Et il pouvait dire, nous allons gagner en dépit de tout. Amen. Enfin, cinquième point et dernier point, je l'ai appelé comme ça, cultiver sa piété personnelle. Voyez-vous, Moïse et Josué ont été des hommes de victoire parce qu'ils étaient des hommes à forte piété personnelle. Ce que je veux dire par là, ils cultivaient profondément leur relation avec Dieu. Jésus a dit au Nouveau Testament, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » À la différence d'un homme comme Samson, ou d'un homme comme Lot, des hommes comme Moïse, comme Josué, comme Abraham, partout où ils allaient, ils bâtissaient un autel et ils adoraient Dieu. Abraham, partout où il arrivait, avant de dresser une grande tente et de faire place à son troupeau, etc., il prenait du temps pour bâtir un autel et adorer le Seigneur. Autrement dit, cet homme-là était un homme de prière. Relisez voir la vie de Moïse. Constamment Moïse, tout Moïse qu'il fut, appelé par Dieu, etc., etc., eh bien, constamment, il parle à Dieu et Dieu lui parle. Constamment, il reste en communion avec lui. Autrement dit, il avait une vie de prière. Jésus avait une vie de prière intense. Et bien aimé, les disciples avaient compris la leçon avec Jésus. Et très vite, ils vont aussi devenir des hommes de prière. Dans Acte 4, ils prêchent l'évangile, ils se font emprisonner, ils ressortent. Et la première des choses qu'ils font, c'est convoquer l'église, faire un rapport et une réunion prière. Et ils prient tellement fort que l'église est secouée. Quelques temps plus tard, l'église se développe. Et puis voilà qu'ils ont trop à faire matériellement. Ils vont dire dans Acte 6, maintenant il faut qu'on délègue les tâches. Sinon, on va perdre notre force. Ils ont délégué les tâches aux diacres et eux se sont consacrés à quoi ? À la prière et à la parole de Dieu. Moïse, face à Amalek, la première réaction qu'il a, c'est Josué, va te battre sur le terrain, moi je monte sur la montagne pour aller prier. Il avait une vie de prière. Bien-aimés, où en sommes-nous ? C'est super d'aller à l'église, c'est super de venir louer le Seigneur, c'est très bien d'écouter prêcher, mais bien-aimés, la bataille se joue aussi sur nos genoux. Et je vous encourage à trouver des temps pour prier. Deuxièmement, un deuxième point que je vais me soulever dans la vie de Moïse, c'est que Moïse a constamment aussi confessé les péchés de son peuple. Souvent nous prions, mais on prie, une espèce de prière, on va aller arracher à Dieu des choses, et c'est très bien. Mais voyez-vous, des fois, le chemin pour y aller mène aussi par des temps où on se repent devant Dieu, où on confesse son péché. À maintes et maintes reprises, eh bien, Moïse a confessé les péchés de son peuple. Dans l'épître de l'apôtre Jacques aussi, il est dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Parfois, je me dis, on est quand même largement contaminé par l'état d'esprit du monde. Maintenant, je lisais un texte de Hubert Védrine qui disait, « Il y a 50 ans, on trouvait normal la peine de mort » et anormal, l'avortement. Aujourd'hui, on trouve anormal la peine de mort, mais normal l'avortement. Et je me pose la question, et nous, qu'est-ce qu'on en pense ? On a des pensées qui rentrent aussi dans nos fonctionnements. Faisons attention, les pensées de Dieu sont largement au-dessus des nôtres. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. Et nous sommes appelés à élever nos pensées au-dessus de celles du monde. Amen. Des fois, nous admettons dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos propres vies, des fois, des choses que nos pères, dans la foi, auraient jamais tolérées. Mais on l'accepte parce que c'est moderne, parce que c'est comme ça, etc. Osons des fois aussi confesser nos péchés et dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que je fais, pour ce que j'ai fait, et je rectifie mon tir. À un moment donné, David non seulement va avouer sa faute, mais il va aussi arrêter de pécher. Il va rectifier son tir. L'apôtre Jean a déclaré dans la son épître dans 1 Jean 1,8. Si nous avouons nos fautes, si nous confessons nos péchés, il, en parlant de Jésus-Christ, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et peut-être avant de venir demander la prière pour les malades, peut-être que les malades feraient bien de prendre un temps près de devant Dieu, de s'analyser. Mais si tu sais dans ton cœur qu'il y a des péchés qui n'ont pas été réglés, si au fond de toi, il y a encore de la haine et de l'amertume, j'aimerais te dire, peut-être commence à confesser ton amertume à Dieu. Dis-le-lui, je suis amer, je suis fâché avec mon mari, avec ma femme. Seigneur, je te demande pardon. Et après seulement, viens devant. Et alors demande la prière pour les malades, afin que tu sois guéri. Amen. Pour clore le chapitre sur cultiver sa piété personnelle, je voudrais finir par cette pensée. Voyez-vous la clé de voûte du livre de Josué ? Dimanche, je l'ai lu, n'est-ce pas ? Josué 1, où Dieu lui dit, sois courageux et fort. Dieu rajoute une dernière chose. Non seulement il lui dit, sois courageux et fort, mais il lui dit aussi, médite ma parole jour et nuit. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Autrement dit, la clé de voûte de ce livre de Josué n'est pas la capacité de direction de Josué, ni ses stratégies militaires, mais son obéissance à ce qui était écrit. On aura beau être courageux et fort, on aura beau avoir des amis qui sont là dans les moments difficiles, on aura beau avoir une mentalité de vainqueur, on aura beau être un homme ou une femme de prière, si nous n'obéissons pas aux Écritures, bien-aimés, nous allons être battus à plate couture. C'est aussi simple que ça. Et si vous ne le croyez pas, lisez soir en rentrant Josué 7. Devant une petite ville absolument insignifiante d'Aï, eh bien, Israël va fuir et perdre la bataille parce qu'un homme avait péché. Il n'y a pas de raccourci à la puissance. Et j'aimerais vous dire que c'est vrai. La seule voie directe, c'est d'obéir. Amen. Alors je vous encourage à lire les Écritures, à les méditer, à les partager dans les cellules, à vous laisser enrichir par l'apport d'autrui, lecture d'autrui, mais surtout à vous laisser encourager à mettre en pratique ce que vous avez lu, afin que vos projets puissent réussir. Amen. Conclusion, comment tenir le choc face à l'envie de céder, être et rester dans la volonté de Dieu, entendre Dieu, produit la foi pour tenir le choc. Deuxièmement, regarder la situation avec une perspective divine. Troisièmement, avoir des amis qui sont là, qui me tiennent les bras en haut pour que je puisse gagner le combat. Quatrièmement, développer une mentalité de vainqueur. Et cinquièmement, cultiver une forte piété personnelle. Alors oui, Dieu peut agir. Alors oui, le Canaan est devant vous. Alors vous allez abattre les murailles de Jéricho, vous allez renverser les murailles, vous allez prendre le terrain, alors oui, vous allez voir les miracles se passer, les portes s'ouvrir, etc., etc. Alors vous verrez ce que Dieu fait. Mais je me dis, toi qui es face à des difficultés, ne baisse pas les bras. Voyez-vous, il y a des moments critiques. J'aimerais dire quelques-uns, ne baissez pas les bras. Ne descendez pas de la croix. Il se peut que Dieu ait amené dans votre vie maintenant dans une espèce de fournaise. Et Dieu, des fois, le fait, parce que Dieu est un orfèvre divin, et des fois, il prend nos vies comme de l'or, et il l'amène dans la fournaise pour chauffer l'or, afin d'enlever les scories. À la croix, Jésus a connu un moment critique. À un moment donné, des gens viennent lui dire, hey, « Hé Jésus, descends de ta croix, arrête de prêcher l'évangile. » Ne baisse pas les bras, ne cède pas face à la pression, reste fidèle et ferme, n'abandonne pas le combat, ne désespère pas. Moi, il y a une figure qui me frappe, c'est Judas. Judas a fait des choses abominables et horribles, mais pire que ça, dans son désespoir, il a tout laissé tomber, il n'a plus aucun espoir et il allait se pendre. Et puis je pense à ces gens-là comme Démas, à un moment donné, compagnon d'œuvre de Paul. Paul va dire de lui, dans Colossiens 4, va dire « Démas m'a abandonné par amour pour le monde. » J'aimerais te dire que des fois la vie chrétienne, oui, elle est étroite, oui, c'est vrai. Le chemin, des fois, il est rocailleux. Oui, des fois, ce n'est pas facile. Mais j'aimerais te dire, ne quitte pas ce chemin. Parce qu'au bout, il y a la gloire. Parce que derrière, il y a la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ne lâche pas d'une semelle ce chemin étroit, parce qu'il vaut la peine d'être vécu. Ne laisse pas ce chemin. Pense à Lot. Pendant des années, il va être avec Abraham. Il va marcher avec lui, mais finalement, il va comme le lâcher. Et puis, il va s'acclimater avec Sodome et Gomorre. Il y perdra tout. Ses biens, ses richesses, et même sa femme. Pourquoi ? Par amour pour le temps présent. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que 60, 70, 80, allez, pour les plus téméraires, 100 ans de vie sur terre. Par rapport à l'éternité, une simple et infime petite parenthèse. Ne baisse pas les bras, reste fidèle à Dieu. Ne pense pas que le péché te fera du bien. J'aime te dire que le péché n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. Au début, ça a l'air alléchant, oui, ça a l'air succulent, mais derrière, l'arrière-goût est amer. Demandez voir ça à Lot, ce qu'il en a pensé. Posez la question à d'autres hommes et femmes qui ont lâché le Christ, lâché le Seigneur. Je me dis, le péché se paye toujours cash. Mais derrière, l'arrière-goût est amer. Je ne suis pas là en train de te dire que, allez, fais des efforts. J'aimerais te dire que Dieu est là. Il te cherche et il te poursuit. La simple chose que tu as à faire, c'est peut-être te rebrancher sur la prise. Dans Luc 19, verset 5, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Il n'est pas dit que la religion chrétienne, c'est l'effort de l'humanité, des hommes, d'aller vers Dieu et d'être sauvé pour être sauvé. Non, il est dit que le christianisme, c'est l'inverse. C'est Dieu qui vient chercher les hommes. Il vient les sauver. Une fois qu'ils sont sauvés, c'est lui qui les sanctifie. C'est lui qui les amène à la perfection. C'est lui qui le fait. Le problème que nous connaissons souvent, c'est qu'on se débranche du courant. Vous avez beau avoir une très belle pompe qui pompe votre eau dans un puits. Si elle est débranchée, elle ne fera plus rien du tout. Mais si vous la branchez, vous avez fait un petit geste. Vous avez branché et c'est le courant qui fait le travail. Amen. J'aimerais te dire, viens te brancher et c'est l'Esprit Saint qui va couler au fond de toi, qui va pouvoir faire le travail que Dieu veut faire en toi. Amen. Alors ne baisse jamais les bras. Dieu veut t'aider, que Dieu nous aide à être des vainqueurs, être des hommes et des femmes qui face aux tentations, qui face à peut-être la tentation la plus cruelle, celle où on est tenté de dire, allez, ça ne vaut pas la peine, laisse tomber, range ton matériel, redeviens comme tout le monde, quitte le chemin étroit, prends le chemin large. J'aimerais te dire, il y a un sauveur qui est ici et qui veut t'aider à rester sur le chemin étroit, qui veut t'aider à marcher droit. Que Dieu vous aide. Ne baissez jamais les bras. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.